entre Loire et Loing. C'est l'heure du magazine du Gâtinais sur ses deux ailes. Bonjour à toutes et à tous. L'automne est arrivé, hein, il faut se remettre des pulls, faut mettre un petit peu de chauffage, mais il ne faut pas renoncer à mettre le nez dehors pour autant, car il se passe toujours autant de choses dans notre belle région. Par exemple, les journées de l'arbre, c'est tout le week-end à l'Arboretum des Bars à Nogent-sur-Vernisson, ou bien la fête de l'automne à Villemandeur, au domaine de l'Île-d'On, ça c'est demain, ou l'exposition Terre de Verre avec la CC4V qui est partagée entre plusieurs villages. On en parlera tout à l'heure parce que tout ça, c'est le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous écouter. À tout de suite, entre Loire et Loin.
La pluie venait du nord, le vent passait sous ma porte. Je comptais vivre fort, et que le diable m'emporte.
J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap. Je secouais la tête, j'en écartais les bras.
J'avais des hauts, j'avais des bas. J'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi.
J'avais des hauts, j'avais des bas. Je crois que j'en voulais trop, j'ai même eu
ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Je restais enfermé, errais pendant des jours. Trop de chemins s'ouvraient, trop de questions en retour.
Je n'avais pas tué mon père, mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire ou ce qu'il ne disait pas.
J'avais des hauts, j'avais des bas. J'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi.
J'avais des hauts, j'avais des bas. Je crois que j'en voulais trop, j'ai même eu
ce que je ne voulais pas. 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 Chaque jour je me tenais prêt, je guettais l'heure et la page où les seaux s'ouvriraient, me laisseraient un passage.
L'espoir me faisait vivre, l'attente me rendait nerveux. Je trouvais dans les livres de quoi patienter un peu.
J'avais des hauts, j'avais des bas. J'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas. Je crois que j'en voulais trop. J'ai même eu ce que je ne voulais pas. 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 Ce que je ne voulais pas.
C'est deux L Radio.
La radio de l'Est du Loiret.
Nous sommes entre Loire et Loin sur C2L et comme je vous l'annonçais au début de cette émission, l'Arboretum des Bars vous propose aujourd'hui et demain les journées de l'arbre avec plein d'exposants. On écoute tout ça au micro de Patrice Avzard.
1er et 2 octobre, fin de semaine, donc l'Arboretum va proposer, comme régulièrement, les journées de l'arbre. C'est le grand rendez-vous, comme vous venez de le dire, pour l'Arboretum.
Ah oui, les journées de l'arbre, c'est vraiment le grand rendez-vous de l'année. C'est le point culminant, on va dire, de la programmation chaque année.
2 jours de festivités, d'expositions. On va retrouver quoi, alors, exactement, durant ces 2 jours?
Alors, les journées de l'arbre, c'est un tout une fête des plantes de pépiniéristes producteurs. Donc, du coup, on a une très belle sélection de pépiniéristes de la région, mais même au-delà de la région, qui sont producteurs de leurs plants, c'est-à-dire que du coup, ce sont vraiment des plants de qualité. Et donc, on va avoir une grande variété de plantes. Alors, on va avoir des arbres et arbustes rares. On va avoir des fruitiers, des rosiers, des roses anciennes. On va avoir des vivaces aussi, des bulbes à fleurs, des érables japonais, des plantes méditerranéennes, des légumes perpétuels. On a même la pépiniériste, enfin le pépiniériste partenaire de l'Arboretum qui expose également et qui commence à reproduire des plants de l'Arboretum.
Pas mal de nouveautés du côté des pépiniéristes pour cette année.
C'est vrai, on est très content de recevoir des nouveaux pépiniéristes. Donc justement, ce sont ceux sur les plantes méditerranéennes et agrumes. Nous avons un pépiniériste qui fait les érables japonais. Nous avons aussi un pépiniériste qui fait des plantes pour sol sec. Et donc aussi un pépiniériste qui fait tout ce qui est légumes perpétuels, mais aussi petits fruits rouges bio.
D'accord. Donc ça, c'est du côté des pépiniéristes. On en compte une petite vingtaine, c'est bien ça ?
C'est bien ça, mais ils ne sont pas tout seuls. Il y a aussi des artisans qui exposent autour du thème du jardin. Donc, on va avoir un fabricant artisanal de nichoirs pour les oiseaux. On va avoir l'authentique fambuche qui est là, un outil extraordinaire pour fendre facilement son bois. On va avoir une brocante, une belle brocante de jardin qui sera là aussi. Il y aura une librairie qui a fait une très belle sélection sur des livres autour du jardin, du jardinage pour les adultes, mais aussi des livres autour de la nature et du jardin pour les enfants.
D'accord.
Voilà.
Voilà, on peut voir également l'Arboretum des Grandes Bruyères qui sera là également.
Il y aura aussi l'Arboretum des Grandes Bruyères, vous avez tout à fait raison. La revue botanique La Garance Voyageuse aussi, histoire de découvrir un peu au-delà des plantes et du jardin, tout ce qu'on peut découvrir autour du thème de la botanique et des jardins. Il y a aussi, important aux Journées de l'Arbre, il y a aussi pas mal d'animations pour les enfants, pour les plus jeunes. On a de la grimpe dans les arbres. Alors là, en l'occurrence, ça s'adresse aux plus jeunes, mais aussi aux adultes. En fait, on peut monter à peu près à partir de 4-5 ans et jusqu'à l'âge qu'on veut. Il y a même un système pour monter. Si on n'a pas la force de monter soi-même à bout de bras, il y a un petit système. Vous découvrirez ça en venant aux Journées de l'Arbre. Il y a une balade à dos d'âne ou en calèche tirée par les ânes. Ça, ce sera dimanche. Il y a de la poterie pour que les enfants ou les adultes, d'ailleurs aussi, puissent un peu mettre les mains dans la terre de façon plus artistique. Il y a une exposition photo. C'est Christian Baudin qui fait de très belles photos nature et animalières qui sera là. Et puis il y a aussi, on aime bien cette tombola, la tombola des exposants qui est tirée samedi et dimanche à 16h30.
On peut noter aussi d'autres rendez-vous avec notamment des conférences et des visites guidées.
Et oui, les journées de l'arbre d'Arboretum des Bars ne seraient pas les journées de l'arbre d'Arboretum des Bars sans ça. En effet, il y a des visites guidées. Alors, on en a 5 par jour, donc tout au long de la journée, sur 2 thèmes différents. Les arbres, donc la vie en couleur, jaune, vert, rouge, émerveillez-vous devant les couleurs de la vie. Et on a aussi le thème d'arbres en art breux, où on chemine à la découverte des arbres au travers des arts.
Ces 2 visites guidées, c'est à travers les collections de l'Arboretum ou c'est juste, je vais dire, du côté de l'accueil, là où tout se concentre souvent ?
Alors, c'est une visite guidée qui, en fait, vous permet d'aller au-delà de l'événement Les Journées de l'Arbre, dans les collections, vraiment les collections de l'Arboretum des Bars. Et donc, il y a 2 thèmes de visite guidée, mais il y a 5 visites guidées par jour. Elles sont en alternance.
D'accord.
Et nous avons donc les conférences. Donc, il y a une conférence par jour à 15h samedi et à 15h dimanche. Donc, samedi, le thème, ce sont les forêts au secours de l'humanité. C'est Philippe Boiron, le formateur de l'Appel des forêts, qui fera cette rencontre scientifique, littéraire et sensible avec le fabuleux monde des arbres. Mmh. Et le dimanche à 15h, alors là, c'est Loïc Barbier de l'association Copalm qui nous présente ce barème vie BED. Alors ça veut dire valeur intégrale évaluée et barème d'évaluation des dégâts. Donc ce barème, il est très important puisqu'il permet de donner une valeur économique aux arbres et c'est vraiment un outil essentiel pour tous les gestionnaires de patrimoine arboré, mais même pour un peu tout à chacun pour pouvoir comparer, évaluer son arbre. On a besoin parfois d'avoir un petit barème comme ça. Donc très intéressant outil, assez récent et qui a été développé par une myriade de spécialistes.
Voilà, c'est un week-end bien chargé. Hein. Comme vous le dites, c'est le point fort de l'année. C'est un week-end bien chargé pour l'Arboretum.
Oui, mais c'est un week-end qu'on apprécie beaucoup parce qu'il marie à la fois les pépiniéristes producteurs et tout un monde de passionnés de l'arbre, de la nature, de la botanique. C'est vraiment un moment pour toute la famille, un week-end où on peut passer toute la journée, voire même tout le week-end à l'arboretum sans s'ennuyer.
Oui, surtout qu'il y a de quoi se restaurer sur place, je suppose.
Mais bien sûr, il y a même une restauration assise. On a un vrai bon repas pour pouvoir se redonner des forces et après monter, par exemple, tout en haut de l'arbre. On aura aussi des crêpes sucrées, des petites gourmandises. Oh, il y en a pour toutes les fins.
Voilà, toutes les fins, tous les gourmands sont les bienvenus.
C'est ça.
Voilà, donc ça, c'est ce week-end, de 10h à 18h. Le prix d'entrée, c'est 10 euros et 6 euros. Pour les moins de 5 ans, jusqu'à 5 ans, gratuit. Donc, un grand rendez-vous. On appelle tout le monde à venir. Mais donc, ce rendez-vous, comme vous le dites, c'est le grand rendez-vous de l'année. Mais il y en a un autre quand même à ne pas oublier à la fin du mois d'octobre.
Alors c'est vrai, on termine l'année en beauté puisqu'on va avoir un super marché d'automne qui va réunir des artisans de produits alimentaires et non alimentaires et ce sera du 29 octobre au 1er novembre et après eh bien, on ferme pour l'hiver, on ouvrira au printemps prochain.
Voilà donc on rappelle, l'Arboretum des Bars c'est à Nogent-sur-Vernisson.
C'est ça, au domaine des bars.
Voilà et puis bah, y a plus qu'à pour ce week-end, donc un week-end bien rempli.
Exactement, il y en a pour tous les goûts et pour tous les gourmands, comme vous disiez.
Eh bien voilà, merci à vous.
Merci à vous.
C2L.
C2L Radio.
89.3.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin. Merci de nous écouter sur C2L. La fête de l'automne à Villemandeur, c'est désormais un rendez-vous devenu traditionnel hein, depuis quelques années, avec son festival d'orgue de barbarie. C'est demain, au domaine de Lildon, et c'est Patrice Simon qui nous en parle par téléphone avec Patrice Avzard.
Pour ce dimanche 2 octobre, le dernier grand rendez-vous pour Villemandeur. On met les petits plats dans les grands.
Tout à fait, puisque nous allons réaliser notre 23e fête d'automne et notre 11e festival d'or de barbarie. Donc ça se passera au domaine de Lildon ce dimanche 2 octobre avec bien sûr toute l'équipe de bénévoles du comité des fêtes.
Et que va-t-on retrouver donc notamment durant cette grande fête d'automne?
Alors, durant cette grande fin d'automne, il y a plusieurs paramètres. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura déjà le marché de l'artisanat, où on accueille des artisans dans les salles du château, suivi ensuite d'un marché campagnard, gastronomique en même temps, plus même marché gastronomique, où on aura bien sûr des producteurs locaux, par exemple les pommes, les poires de Corquilleroy, le miel du Gâtinais, on aura la farine de Courtemaux, on aura du boudin fabriqué artisanalement, et puis bien sûr bien d'autres produits, et quelques vins régionaux aussi de Touraine, d'Alsace et autres. Et aussi également, on va préparer du jus de pomme sur le pressoir communal. Donc ça, c'est une activité qui plaît beaucoup à nos visiteurs puisque tout se fait en direct.
Et toujours et encore, la grande brocante vide-grenier?
Alors bien sûr, pour compléter toute cette fête d'automne, on aura le brocante et vide-grenier qui est exclusivement réservé aux particuliers, nous disons bien aux particuliers et professionnels de la brocante. Bien sûr, les brocanteurs sont invités. Et pour compléter, là, depuis l'année dernière, on y ajoute également une bourse aux collections qui sera située dans la salle de loisirs, elle, où on pourra retrouver, bien sûr, traditionnellement aussi, les timbres, capsules, cartes postales, fèves et bien toutes ces choses-là. Pour agrémenter, bien sûr, ceci, on aura également une possibilité de se restaurer le midi. Hein, on aura un menu type alsacien avec, bien sûr, entrée, plat, fromage, dessert et boisson, bien sûr, avec modération, comme toujours. Et puis, on aura également notre traditionnelle brasserie, frites, saucisses, merguez. Une structure gonflable également pour accueillir les enfants. Alors bon, je le cache pas, on espère avoir le beau temps pour ce week-end, mais si toutefois le temps est trop humide, peut-être que la structure, on pourra pas la mettre en route, mais on espère bien accueillir certains enfants aussi. Et de plus, ce que je voulais rajouter pour cette fête d'automne, c'est qu'en préambule, le samedi 1er octobre, nous allons mettre en place deux concerts gratuits. Un à partir de 15h sous la halle près de l'église. Et le deuxième, ça sera à partir de 16h30. Et là, ça se fera dans l'église Saint-Didier de Villemandeur. Tous ces deux concerts, bien sûr, avec nos festivaliers, tourneurs d'orgue, puisqu'en fait, d'orgue de barbarie, puisqu'on a quand même une quarantaine de festivaliers qui seront présents le samedi après-midi. Ils vont graviter dans certaines galeries commerciales, sous la halle, comme je le disais, et à l'église. Et le dimanche, on les retrouvera tous au domaine de l'Île-Don, dans cet immense parc verdoyant et toujours accueillant.
Oui, ça, ce festival orgue de barbarie et musique mécanique, ça devient une tradition maintenant sur Villemandeur.
Oui, bien sûr, ce festival est une tradition sur Villemandeur et en plus est unique, et ça nous y tenons à Villemandeur, il est unique en région Centre, c'est-à-dire que dans toute la région Centre, dans les départements de la région, il n'y a aucun festival qui ressemble à celui que nous organisons. On n'en demande pas l'exclusivité, mais on se fait fier quand même à Villemandeur de l'avoir mis en place depuis 11 ans et puis d'avoir un public qui s'intéresse justement à ce type de musique. Ça plaît à tout le monde, en plus on retrouve les airs d'antan, aussi bien musique que chanson, parce qu'il y a certains aussi festivaliers qui se font plaisir à avoir un petit panneau avec les paroles dessus. Ils invitent le public à venir chanter. C'est vraiment une très très bonne ambiance et qui vient depuis quelques années compléter cette belle fête d'automne dans l'immense parc du domaine de Lildon à Villemandeur.
Et ils viennent d'où ces festivaliers d'orgue?
Alors les festivaliers, bien sûr, on a des locaux, on en a de Montargis, on en a de Pannes, on en a un petit peu plus loin sur Orléans, et sinon ils nous viennent des quatre coins de France, hein, et c'est très important pour nous, parce que j'allais dire du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Midi, il y en a qui viennent de très loin, et on a même des Belges, donc pour remonter un petit peu côté extérieur à la France, on est vraiment, puis on est, je pense, très connus et reconnus, et il se trouve également qu'ils font tous un plaisir de revenir à Villemandeur, d'abord parce que le comité des fêtes sait les accueillir, c'est une chose, mais en plus, ils y trouvent une très bonne ambiance qui nous disent ne pas retrouver forcément sur d'autres festivals. Et ça, ça nous fait chaud au cœur de les accueillir à Villemandeur.
Donc voilà encore une belle journée pour ce dimanche, hein. Grande fête d'automne, festival d'orgue, donc il n'y a plus qu'à, on va dire.
Voilà, et puis je tiens à dire que toute l'entrée, bien sûr, pour le festival, comme la fête d'automne, tout est gratuit. Il n'y a aucune entrée payante, c'est libre à tout public et à tout moment.
Voilà, si ce n'est ce qui est payant, c'est pour ceux qui veulent exposer sur le vide-grenier et la brocante, bien sûr.
Alors, bien sûr, l'exposition pour les brocanteurs est de 3 euros du mètre, hein, linéaire, comme celle-là depuis maintenant plus de 20 ans, hein, puisqu'on est à la 23e édition. Donc, il y a juste la seule chose, ce sont les participants pour exposer à la brocante. Pas de réservation, je tiens à le dire aussi. On place à partir de 6 heures le matin. Hein, on accueille tout le monde à partir de 6 heures. Il n'y a pas besoin de faire de réservation préalablement.
Eh bien, voilà, on peut souhaiter une bonne journée à toutes et à tous, alors.
Ben oui, c'est tout à fait dans cet esprit-là. Bonne journée, bienvenue à nos visiteurs, qu'ils soient chalettois, du Montargois et bien sûr bien au-delà. Hein. Donc on accueille vraiment, on est prêt pour accueillir le public de toute distance, on va dire. Voilà.
Eh bien Patrice, bon merci.
Voilà, ben je vous remercie et merci encore à C2L pour cet excellent partenariat.
Entre Loire et Loin, nous avons eu le plaisir d'échanger quelques mots avec Christian Mbili, célèbre boxeur professionnel qui fait un petit tour dans le Loiret et dans son club d'origine à l'USM Montargis où il est venu saluer quelques amis et son ex-entraîneur Éric Godet. Christian Mbili vit désormais au Canada où il a livré et gagné 22 combats professionnels. Il est venu se ressourcer quelques jours à Montargis et pour l'occasion, il a reçu la médaille de citoyen d'honneur des mains du maire, Benoît Digion. Christian Mbili au micro de Patrice Avzar.
Retour aux sources ici, à Montargis. On revient prendre des forces avant les prochaines étapes.
Exact, c'est vraiment ça. C'est vraiment un retour aux sources. Je reprends des forces. Je vais me rappeler des souvenirs. Comme on dit, il faut savoir d'où l'on vient. Et ce sera plus facile pour le chemin suivant. Mais c'est sympa, un retour aux sources, un retour dans les souvenirs, un retour voir tout le monde, voir l'USM, voir la ville en même temps. Comme je le disais, c'est un club qui compte beaucoup pour moi. C'est une ville qui compte beaucoup pour moi. C'est où j'ai mis mes premiers coups de poing. C'est où j'ai mes premiers souvenirs de boxe. Et c'est ça, c'est vraiment un retour aux sources et ça fait vraiment du bien.
Maintenant, donc, vous avez traversé l'Atlantique. Ça fait de nombreux mois, de nombreuses années. On peut voir, ça se passe très très bien pour vous là-haut.
Ça se passe bien, il y a beaucoup de travail. J'ai une bonne équipe derrière moi, j'ai une équipe qui me pousse énormément. Après, derrière, on attend les résultats. C'est vrai que ça avance bien, mais je suis sportif, j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même. J'espère que ça va aller encore plus vite et on espère atteindre des objectifs d'ici à court et à moyen terme.
Ça va déjà très vite, notamment pour vos adversaires qui se retrouvent très très vite au tapis. Ils n'ont pas le temps de réagir, on cogne tout de suite.
Exact, on cogne tout de suite, c'est vrai. Mais ça prouve vraiment le travail de qualité qui est fait en amont. Ça prouve un très gros travail fait par moi et par mon équipe. Et jusqu'à maintenant, on ne s'est pas trompé. J'espère que ça va continuer comme ça.
Il y a déjà une ceinture et l'objectif, oui, même plusieurs. Et c'est quoi l'objectif? Parce que voilà, on peut toujours monter plus haut.
Exact, l'objectif c'est le numéro 1. Actuellement, je suis classé numéro 3 mondial. L'objectif d'ici la fin 2023, je dirais même, c'est aller chercher la place de numéro 1 mondial. Et c'est vraiment ça. Là, je suis classé numéro 3. J'ai un autre combat avant la fin de l'année. J'espère atteindre numéro 2 et d'ici fin 2023, prendre enfin le titre de champion du monde. Et c'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui. Après, derrière, réunifier les ceintures.
Et justement, qu'est-ce qui vous manque, s'il vous manque quelque chose actuellement pour être numéro 1?
La patience. Vraiment la patience. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui. Après, la boxe, il n'y a pas que le côté sportif, il y a le côté business, il y a le côté promoteur, chaîne, et il y a un gros côté de facteurs qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Moi, de mon côté, je me concentre sur ma carrière, je me concentre sur ce que je peux faire, et derrière, je vois en fonction des opportunités qui s'ouvrent. Mais en tout cas, dans tous les cas, aujourd'hui, on est prêt à aller faire tout le monde, on est prêt à aller chercher cette ceinture de champion du monde.
Actuellement, on ne peut voir malheureusement pour nous en France que sur les écrans. On aura la chance, le plaisir de vous voir ici sur le territoire.
En décembre, c'est en négociation actuellement. Je ne veux rien promettre, je croise les doigts. Apparemment, les négociations sont en bonne voie de faire un combat en décembre à Nantes, le 17 décembre. Mais encore une fois, je ne veux pas précipiter les choses. Il y a mon équipe, il y a les avocats qui sont sur le coup. Et on espère qu'on va réussir à finaliser ce contrat. Sinon, j'aurai un combat le 16 décembre à Montréal ou soit le 17 à Nantes. Et j'espère vraiment finir cette année en beauté en France, à Nantes, et faire un très beau combat pour mon public français.
Voilà, puis donc bien préparer 2023, l'échéance que vous vous êtes fixée.
Exact, bien préparer 2023, finir l'année en beauté et continuer le chemin comme je l'ai fait jusqu'à maintenant.
Sans se prendre la tête, on avance tranquillement mais sûrement.
Tranquillement et sûrement, exactement ça.
música me arrebata una cadencia que me mata. Tú eres clave y yo bombo. Ay, 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 muchacha, tienes lo que yo necesito. ¡Sabrosura!
Alguien como tú para bailar. Alguien como tú para bailar.
Hay una nena que me quiera.
Alguien como tú para bailar.
Tú eres son y yo monturo.
Alguien como tú.
Somos clave y guaguancó. Oye, Maite, romance musical.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin. Merci de nous écouter sur ces deux ailes et merci de nous regarder en vidéo sur les internets, sur notre page Facebook, notamment entre Loire et Loin. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et découvrez le Gâtinais à travers nos reportages, comme par exemple cette petite balade qui nous a mené de Rozoy-le-Vieil à Corbeil-en-Gâtinais jusqu'à Ferrières. C'est l'expo Terre de Verre, une de multiples installations, hein, des expos, des rendez-vous. C'est jusqu'au 16 octobre. Venez, on vous emmène.
L'année 2022, c'est l'année internationale du verre. Alors évidemment, vous le savez sans doute, Dordive et la CC4V, en l'occurrence, ont le musée du verre industriel. Le truc, c'est qu'il est fermé, ce musée. Il est fermé depuis 2016, suite aux inondations. Cependant, eh ben, ce territoire a décidé de bouger, de faire parler de lui dans le cadre de cette année internationale du verre. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Sonia, tu es la responsable de la communication à la CC4V. Tu es la responsable aussi de l'office de tourisme. Raconte-nous donc toute cette opération qui va se prolonger durant tout le mois et qui s'appelle très joliment Terre de Verre.
Oui, effectivement, la CC4V, qui est en charge de la culture hein, pour les 19 communes qui ont donné leur délégation, a organisé dans le cadre de l'année internationale du verre un parcours scientifique, ludique, pour faire connaître ce métier du verre qui est quand même qui a bercé toute la vallée du Loing pendant des années et qui continue aujourd'hui à perdurer. C'est aussi le message qu'on a envie de faire passer. Voilà, le musée du verre est fermé depuis 2016 suite aux inondations. Aujourd'hui, il est en réhabilitation et il va bien sûr réouvrir sûrement printemps 2024. Mais on ne pouvait pas, l'année internationale du verre, ne rien faire. Et c'était vraiment une volonté de Mona Lévesque, qui était l'ancienne directrice du musée du Verre, de créer ce parcours qui est sur différents sites du territoire des Quatre Vallées.
Voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit où Entre Loire et Loing n'est encore jamais allé, c'est Corbeil. Voilà. Et à Corbeil, il y a un très beau colombier, et à l'intérieur du colombier, il y a, comme on dit, une expérience auditive.
Une expérience sonore, ouais. On va découvrir ça ensemble. Il va y avoir de la musique et puis des témoignages d'anciens verriers qui parlent vraiment de leur métier et de certaines anecdotes assez sympas.
Dans un très bel endroit. On y va. 1766. Ça passe. Bonjour Emeline.
Bonjour. Bienvenue au Colombier.
Alors, Emeline, c'est la responsable de culture, patrimoine, et j'oubliais quelque chose, à la CC4V.
Et tourisme.
Voilà. D'accord. Donc, vous êtes vraiment, avec Sonia, le binôme.
On travaille main dans la main, exactement. Exactement.
Alors, ce qu'on entend là, comme instrument, je sais, j'ai envie de le dire, parce que je trouve ça trop beau. Peut-être que je vais me tromper. C'est un glockenspiel.
Non, pas du tout. Perdu. Voilà. Donc c'est un glace harmonica. C'est un duo glace harmonica et également jeu sur des verres. On a tous joué quand on était enfant avec les verres en cristal. À la fin des repas, on met le doigt un petit peu mouillé, on tourne sur le verre en cristal et on a ce son très féerique qui apparaît. Eh bien, le glace harmonica, c'est un instrument qui est un petit peu identique. Ce sont des bols en cristal qui sont montés sur un tube qui fait un mouvement rotatif et pareil, on joue avec les doigts mouillés sur l'instrument et on a cette sonorité un petit peu cristalline qui est assez ancienne parce que c'est un instrument qu'on trouvait déjà à l'époque de Mozart. C'est un instrument qui a, il y a plein de légendes autour. Il a même été, après, au 19e siècle, interdit en Allemagne parce que on disait qu'il faisait hurler les chiens dans la rue, qu'il faisait accoucher les femmes enceintes. Enfin, voilà, il y avait toute une légende autour de cet instrument. Alors, on a dit souvent que c'était peut-être le plomb qui était contenu dans le cristal qui pouvait amener le saturnisme et qui... Voilà, tout ça, c'est des petites légendes autour de cet instrument. Voilà.
Bon, alors donc, vous avez choisi de présenter cet instrument surprenant dans un lieu absolument surprenant. Monsieur Weber, vous n'allez pas avoir le tournis si vous tournez la caméra comme ça. On peut faire ça, c'est fait. Vous avez de la chance, c'est beau. Et puis alors, il y a évidemment également... des petites photos. On fait le tour des photos, Emeline ?
Oui, il y a des petites photos aussi. Donc, alors, dans cette expérience sonore, il y a ce morceau-là qu'on vient d'écouter avec l'harmonica de verre, mais il y a aussi un autre instrument, le cristal bâché. Et il y a aussi un témoignage oral d'un ancien verrier, André Schmitt, qui a travaillé dans ses usines de Bagneux-sur-Loing. Tout à l'heure, Sonia vous a peut-être parlé du musée du verre, de cet événement Terre de Verre. Là, cette expérience sonore au Colombier, en fait, elle s'inscrit dans un événement plus important, avec plusieurs stations. C'est un parcours artistique, scientifique et ludique sur le territoire de la CC4V. Le but, c'était de faire circuler les visiteurs sur notre territoire, de découvrir des lieux du patrimoine et de parler du verre dans le cadre de l'année internationale du verre.
Alors oui, on aurait dû commencer par ça. Il y a 4 communes. Ici, Corbeil, on ira tout à l'heure à Ferrières. Il y avait Rozoy, c'était quand, dis-moi, c'était samedi dernier, il y avait Rozoy. Et puis, il y aura aussi Dordive, voilà. Oui. Dordive, il se passera quoi? On peut en dire deux mots là maintenant?
Alors, oui, on peut dire ce qui se passera à Dordive. Dordive, ça sera une démonstration des verriers du soufflage au chalumeau.
Ponctuel.
Voilà. Oui, le 8 octobre, voilà.
Alors on continue. C'est vraiment important, hein. C'est le verre industriel en fait, hein, qu'on développe.
Le musée du verre à Dordif, c'est le seul musée public en France consacré aux techniques et aux produits industriels du verre. Il n'y en a pas d'autres en France. Donc, actuellement, il est fermé. C'était l'année internationale du verre. Nous, on a vraiment voulu mettre le verre à l'honneur. C'est comme ça que cette aventure a commencé, sur une idée de Mona Lévesque, une de nos anciennes collaboratrices, qui n'a pas eu le temps de voir le résultat de son travail parce qu'elle a été amenée à d'autres fonctions à Colmar, au musée du jeu et du jouet. Mais bon, Mona, si tu nous regardes, je te fais un petit clin d'œil et je te dis que voilà, on l'a fait, on a mené le projet à terme. Donc ce projet, après, il a été coordonné par Eva Bolland, que vous rencontrerez dans un autre lieu tout à l'heure. Ce parcours avec une station à Rozoy consacrée aux collections du musée du verre où on présente de la verrerie industrielle, culinaire, optique, scientifique, de la verrerie de laboratoire.
Des télévisions. Vous des savez, télévisions. Les téléviseurs anciens, tout en verre, c'est impressionnant. Voilà. Oui, et c'est dans un très bel endroit, Rozoy. D'ailleurs, on vous passe des photos en ce moment. C'est le pressoir de Rozoy-le-Vieil. C'est vraiment un très bel endroit, hein. Aussi beau qu'ici.
Voilà. La Maison des métiers d'art, avec une exposition consacrée aux meilleurs ouvriers de France. Vous irez après. Ouais. Voilà, j'en dis pas plus, alors. La verrerie d'art choisie sur école, vous verrez aussi. Et puis, ici à Corbeil, donc dans le Colombier, l'expérience sonore, et à côté, une expo jeu sur le développement durable qu'on a construit en partenariat avec le SMIRTOM, parce qu'on ne pouvait pas parler du verre à notre époque sans parler du recyclage, sans parler du développement durable, parce qu'on sait que le verre, c'est un matériau qui se recycle à l'infini. Voilà. Wow.
De mes habits, de mon joli pull canari, sur toutes mes bouteilles de vin rouge, on a collé des étiquettes sur tout ce qui bouge. Les films, les bouquins, les chansons ne font pas figure d'exception. Du coup, j'ai trouvé mon filon. Sur la planète, je crois que je suis premier du nom. Je suis le chanteur bleu, 100% naturel, bioma des graines de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bio, 100% végétal. Mon nom à moi c'est Soul, y'a qu'à voir. Pose-toi sur ma branche, renifle un pétale. Tourne, 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 tourne le bouton dans la radio. Tourne, 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 que du mauvais son dans ton auto. On a combattu la malbouffe, mais la musique de fast-food. Faut qu'un justicier lui barre la route. Pas de doute, il faudrait un super-héros, une sorte de Nicolas Hulot, avec trois lettres sur son dos. Yeah. B-I-O, tout le monde. B-I-O, je suis le chanteur bleu. Je suis le chanteur blanc, sans version végétale. Mon nom à moi c'est Sol, comme l'arbre. Les pieds dans la boue, mais en éventail. Comme les chou-fleurs et les petits beurres, maintenant y'a les chanteurs. Chanteur bio.
C2L Radio.
www.c2l-radio.fr.
Donc, on vous le disait tout à l'heure, Terre de Verre, c'est une balade en fait qui vous est proposée dans le territoire de la CC4V. On a vu Corbeil avec ce très beau colombier. On a évoqué Rozoy-le-Vieil avec la belle exposition que vous pouvez voir au pressoir. Et nous voici maintenant ici alors à la Maison des métiers d'art de Ferrières. Sonia raconte.
Alors ici, on a la Maison des métiers d'art de Ferrières. Je vais terminer par ça, mais je vais déjà te dire aussi que la CC4V a pour objectif de promouvoir des sites culturels, dont celui de Sceaux-du-Gâtinais, le site archéologique et futur musée qui est à Sceaux-du-Gâtinais, donc CGETA. Il y a aussi le musée du Vert dont on a parlé tout à l'heure. Il y a bien sûr l'office de tourisme pour la partie touristique. Et il y a la Maison des métiers d'art qui a pour vocation de mettre en avant les métiers d'art de toutes sortes. Et donc, dans le cadre de l'exposition Terre de Verre, effectivement, elle accueille deux expositions magnifiques sur le verre. Il y a une partie verrerie industrielle qui correspond vraiment au travail des usines et une partie verrerie d'art. Mais je pense que Eva t'en parlera mieux que moi.
Voilà. On retrouve tout de suite Eva. Elle va nous expliquer la passerelle entre les deux. Bonjour.
Bonjour.
C'est superbe ici. Donc Eva, c'est toi qui t'occupes d'accueillir le public ici pour toute cette exposition sur le verre. Et tu as choisi d'ailleurs ce très bel, ce très beau fond. C'est très beau. Tu nous expliqueras ce que c'est.
Oui, bien sûr. Donc, je suis en charge d'exposition du Musée du Verre pour le projet Terre de Verre. Et donc ici à la Maison des métiers d'art, qui est le point de départ de la route des métiers d'art du Loiret, il y a 9 chefs-d'œuvre pour l'exposition Meilleurs ouvriers de France, métiers du verre. Et donc le panneau qu'on voit juste derrière, c'est l'une des premières œuvres qui a obtenu la récompense de meilleur ouvrier de France.
Alors on précise, hein, c'est meilleur ouvrier de France, mais catégorie verre industriel, hein, c'est ça.
Voilà, ici on va avoir beaucoup de pièces au soufflage au chalumeau. Et donc derrière nous, on a des pièces de verrerie scientifique. Et dans l'exposition, on a aussi également des pièces de verrerie artistique.
Alors pourquoi ? Moi je ne comprends plus rien, Sonia. On m'avait dit que c'était du verre industriel et on se retrouve avec du verre artistique. Mais je sais, il y a une passerelle entre les deux, c'est les bousillés. C'est ça ?
Exactement. Donc, en fait, les ouvriers des usines travaillaient sur de la verrerie industrielle pendant leur temps de travail. Et lorsqu'ils avaient terminé les pièces qui leur étaient demandées dans la journée, ils avaient l'occasion de pouvoir s'exercer sur des pièces plus artistiques, notamment les bousillés. Et certains, pendant leur temps libre et leur week-end, ont décidé de relever le défi du concours de meilleur ouvrier de France en proposant des chefs-d'œuvre qu'on peut admirer ici.
Et dis-nous encore des choses sur ces bousillés. Est-ce que ils vous ont été donnés par des habitants de Dordive ou d'ailleurs quand il y a eu cette ouverture du musée du verre?
Oui, alors les bousillons ont été donnés par plusieurs personnes, donc soit des anciens employés, soit des héritiers qui avaient retrouvé certaines pièces chez eux et qui en ont fait don. Les bousillés se sont vraiment beaucoup répandus parce que c'était quelque chose qui était beaucoup fabriqué par les ouvriers. Ça pouvait être parfois une monnaie d'échange, ça pouvait être un cadeau ou quelque chose pour enrichir un petit peu plus son chez-soi. Donc, ils se sont beaucoup répandus et il y a beaucoup de personnes de la région qui ont des bousillés chez elles.
Et donc, d'où le mot populaire, bousiller, c'est ça ?
Oui, alors le mot bousiller vient du fait qu'on utilisait le fond de verre qui restait dans les fours et donc on pouvait s'essayer à plein de choses. Et donc parfois, comme c'était des pièces aussi qui étaient utilisées, qui avaient été mises au rebut, qui étaient retransformées pour donner une seconde vie et faire des objets qu'on pouvait ramener chez soi, le terme bousiller est venu de là.
On est en plein recyclage. On est bon, on est bon. Alors on continue. Alors. On s'arrête où tu veux. Alors, attends, parce que là, waouh.
Alors ça, c'est une superbe pièce qui a été faite donc par Yves Borel. Elle présente la naissance de l'homme. En fait, c'est une pièce qui a été demandée au concours de meilleur ouvrier de France en 2007, qui devait trôner dans le hall du Musée de l'Homme à Paris. Et donc, Yves Borel s'est inspiré des collections du musée pour créer cette pièce, qui est assez étonnante. Il y a plus de 8000 soudures dans cette pièce. Et on retrouve plein de détails, des bonhommes à tête rose, jaune et brune, aussi des oiseaux, des poissons, du végétal, des quadrupèdes. C'est vraiment une pièce assez exceptionnelle.
À côté. On ne va pas tous les faire, hein. Alors, on peut prendre celle que tu préfères, Eva, si tu veux.
Oui, alors bah, celle que je préfère, il y a celle qui est juste derrière nous, qui est donc une sphère qui, elle aussi, est une naissance de l'homme parce qu'elles ont participé, elles ont été présentées la même année au concours. Et celle-ci, c'est un néon. Et donc, je peux vous l'allumer si vous voulez.
Ouais. Waouh!
Cette pièce donc représente la naissance de l'homme. Et donc, on a un vrai travail avec les néons, mais aussi avec de la fibre. Donc, c'est un travail assez incroyable. C'est une pièce qui a été endommagée pendant les inondations et qui demande une restauration. Mais c'est vrai qu'elle fait toujours un effet incroyable quand elle est allumée.
Donc, ah oui, précision. Donc, ce qui veut dire que ces pièces-là sont au musée du Verre de Dordive habituellement.
Voilà, elles étaient présentées au musée du Verre pour certaines, donc c'est l'occasion de les redécouvrir dans cette exposition.
Et alors maintenant, tu nous emmènes vers la collection de Soisy-sur-École. Raconte-nous tout sur Soisy-sur-École. On va peut-être se diriger là-bas. Waouh ! Waouh ! Oh, c'est... Alors voilà, raconte-nous Soisy-sur-École.
Alors, la verrie d'art de Soisy-sur-École, c'est une verrie d'art qui a connu de nombreux verriers sur plusieurs générations. Là, on est avec Frédéric Allary, qui nous a soufflé toutes ces belles pièces au soufflage à la canne. Et donc, il n'était pas du tout verrier. Et quand sa mère a décidé de vendre la verrie d'art, il s'est dit quand même qu'il fallait qu'il essaye. Et donc, quand il a essayé, il s'est fait prendre et il a continué. Et donc, aujourd'hui, il nous offre des magnifiques pièces à observer dans cette exposition, de grands volumes, avec une recherche d'équilibre et d'infini. Et il nous propose plusieurs collections. Ici, on est devant la collection Equinox, avec des petits filigranes qui sont vraiment très jolis. Et il est vraiment passionné. Et donc, il explore vraiment différents thèmes. On a la collection Égée, inspiration plutôt grecque. Et puis, on a aussi la collection Horizon, avec vraiment des belles variations.
Eva, on se croirait dans... au cœur du système stellaire, tu trouves pas ?
Exactement ça, on retrouve comme des planètes autour de nous, ces vases qui sont vraiment dans la rondeur et qui permettent vraiment de voir la lumière passer avec de très jolis reflets.
C'est donc un seul artiste qui est présenté là, on est d'accord.
Voilà, c'est Frédéric Allary de la Verrie d'art de Soisy-sur-École qui nous a fourni ses pièces et dont il en a fait certaines exprès pour cette exposition.
Tu l'as rencontré ? Il est venu ?
Oui, il est venu. Il est vraiment très travailleur, un très bon verrier. Il est passionné par ce qu'il fait et toujours dans la recherche de nouveaux procédés, de nouvelles techniques, d'essayer. Et donc ça, c'est très intéressant, on voit qu'il est passionné.
Il y a un petit panneau qui me dit qu'on peut acheter apparemment les pièces. Hein.
Oui, il ne faut pas hésiter, on peut même vous les réserver. Donc venez découvrir ces belles pièces que vous pourrez peut-être remporter chez vous.
Alors ça donne évidemment envie de s'essayer au verre. Alors ça sera trop tard, on n'aura pas encore posté la vidéo, mais peut-être que vous pourrez retrouver ça plus tard. Il va y avoir ici à Ferrières très prochainement une projection qui s'appelle Souffleur de verre, c'est ça ?
Alors voilà, la projection du film Le Dernier Souffle, qui est réalisé par Florian Debut, un petit-fils de verrier, et qui nous raconte l'histoire de l'industrie verrière locale à travers des témoignages. Donc c'est vraiment un superbe film qui retrace l'histoire locale.
Et puis bon, c'est trop tard, on ne pourra pas le voir, c'est ce week-end je crois, hein, c'est ça ?
Voilà, ce dimanche à Ferrières à la salle des fêtes.
Voilà, et comme on n'aura pas le temps d'avoir vu ce film avant d'avoir monté ce reportage, eh bien vous pouvez vous rendre le 8 octobre à Dordive pour voir des démonstrations de souffleurs de verre. Raconte.
Voilà, c'est un petit peu le point d'orgue de cet événement. Donc plusieurs souffleurs de verre au chalumeau vont nous montrer leur savoir-faire, leur technique. Ce sont des anciens verriers qui travaillaient à Bagneux-sur-Loing et qui aujourd'hui sont membres de l'association gâtinaise des Amis du Musée du Verre. Et donc, pour le plaisir de nos yeux, vont reprendre leurs outils et nous montrer comment ils modent les souffles le verre.
C'est la magie, en fait. Ici, on est dans la magie. Merci Sonia, merci Eva, merci Emeline qui est restée là-bas. Les horaires.
Alors, la Maison des métiers d'art est ouverte le vendredi et le samedi de 10h à midi et de 14h à 17h. Et ensuite, le dimanche de 15h à 18h.
Voilà, et Terre de Verre, c'est jusqu'à quand ?
Alors, Terre de Verre, c'est jusqu'au 16 octobre, mais les expositions à la Maison des métiers d'art se prolongent jusqu'au 6 novembre, donc n'hésitez pas à venir.
Oui, vraiment n'hésitez pas.
Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvidas y comienzas una vida nueva. Y respire el aire puro. Sin el vicio de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Con los colores de una mariposa, vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas que la lluvia te desnuda, juega en los mares que despiertan a la luna y sé feliz. Sé feliz, sé feliz. Si la soledad te enferma el alma,
C2L,
C2L Radio
89.3.
Nous sommes toujours entre Loire et Loing et nous sommes toujours à l'expo Terre de Verre. Et lors de notre passage à la Maison des métiers d'art à Ferrières, où se déroule une partie de l'exposition, nous avons rencontré André, un des exposants qui fut meilleur ouvrier de France. Vous pouvez d'ailleurs, vous aussi, visiter cette expo en compagnie d'André cet après-midi à 15h30 à la Maison des métiers d'art. On écoute l'histoire d'André.
On a une chance folle, on était prête à partir de cette maison des métiers d'art. Et puis, on est tombé sur André Schmitt qui entrait. Et André Schmitt est l'un des meilleurs ouvriers de France qui sont exposés ici, avec cette pièce de verre particulièrement. André, vous êtes meilleur ouvrier de France. Mais attendez, c'était en 1965.
Oui, exactement. C'était encore dans les premières années des concours. Sachant que le premier a été en 1924, avec le panneau Vigreux qui est derrière vous.
Comment ça vous est venu ? Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque ? Eh
bien, écoutez, à l'époque, j'étais chef d'atelier à Sauvirel, parce que ça ne s'appelait pas encore Cornille, ça s'appelait Sauvirel.
Donc c'est à Bagneaux.
C'était à Bagneaux. J'étais chef d'atelier cet atelier de fabrication d'appareils de laboratoire et de finition. Voilà.
Et comment, à un moment donné, on se dit je suis prêt pour le concours ?
Non.
Non, on
ne
dit pas.
Non, c'est vraiment quelque chose d'assez incongru, parce que ce sont les directions de Sauvirel qui m'ont demandé avec insistance de faire le concours, pour des raisons certainement commerciales. Moi, je n'étais pas prêt, parce que quand on vous demande de faire quelque chose de cet ordre, il faut d'abord choisir un sujet, car à l'époque, le sujet était libre. Donc, on était libre de choisir la pièce qui nous semblait être à un niveau adéquat.
Alors, dites-moi, vous aviez combien d'expériences derrière vous ? Combien d'années ?
Écoutez, j'ai commencé mon apprentissage en 1948 au lycée des Feuillantines à Paris. Et puis ensuite, je suis rentré dans la vie active après 3 ans, et un BEI et un CAP. Et puis, j'ai continué jusqu'à naturellement à partir sous les drapeaux pendant 27 mois.
Bon, alors, dites-moi, vous avez une vie longue, alors on ne va pas tout faire.
Non, on ne va pas tout dire.
Revenons à cette pièce. Quand on fait cette pièce, il faut la faire d'un seul coup ?
Non.
Ah.
Non, on peut la faire par élément. Autrement, d'un seul coup, il faudrait ne pas aller dormir. Ça sera un peu embêtant.
C'est combien d'heures de travail ?
Bon, écoutez, je ne m'en souviens plus. Je m'en souviens plus.
Mais c'est...
Quelques centaines, 200-300, je sais pas.
Vous y reveniez régulièrement ?
Non, parce que c'était assez décousu. J'avais mes obligations de chef d'atelier. Et naturellement, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps, hein, cette fonction. Donc, je faisais quand j'avais un petit peu de temps. Naturellement, lorsqu'on attaque ce genre de sujet à fabriquer, on n'en attaque pas un, on en attaque au minimum 2.
Vous en avez fait 2 ?
Oui. Deux. Alors,
pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui va casser.
Non, parce qu'on peut avoir un accident. Ouais. On peut. Donc on en fait 2. L'on appelle d'ailleurs, excusez-moi, que l'on appelle le deuxième, on l'appelle le mulet.
D'accord. Et le mulet, vous l'avez toujours ?
Il est cassé.
Oh ! Il a cassé quand ?
Non, alors, il n'a pas cassé tout seul. Ce sont deux pièces qui ont été cassées, celle-là aussi.
Et elle a été recollée ?
Ah non, ça ne se recolle pas, madame.
Oh, mince.
Ça se démonte et on refait la partie qui a été cassée et on remonte. D'accord. Par soudure, naturellement.
Bon. Vous nous dites, depuis tout à l'heure, je regarde, je trouve ça très beau, je ne sais pas à quoi ça sert.
Alors, ça servait, parce que la technologie est dépassée. Ça servait en 1940 à parfaire le vide dans les enceintes spéciales pour les laboratoires de recherche, notamment, et surtout pour l'énergie atomique. Donc, c'est une pompe à faire le vide. À parfaire le vide, parce qu'il faut qu'elle soit amorcée par une pompe mécanique qui ne peut pas descendre suffisamment bas en pression. Donc, la pompe à palette arrive à un certain seuil de vide et on met derrière cet objet qui va parfaire le vide et qui va descendre à quelque chose d'assez petit, on va dire, et bas en pression.
André, on va s'arrêter là, parce que...
C'est de la technique.
Si vous avez compris, c'est super. Moi, je n'ai pas compris.
Si,
je trouve ça beau et magique. Et donc, en fait, André Schmitt, c'est un grand technicien, et moi, je le prends pour un grand artiste. Et lui, il ne sera pas d'accord.
Bon, non, je suis un ouvrier, c'est tout.
Voilà. Eh bien, voilà. Merci, André. Bravo.
André, meilleur ouvrier de France, sera donc à 15h30 à la Maison des métiers d'art à Ferrières, où vous pourrez visiter l'exposition Terre de Verre en sa compagnie, avec notamment ces magnifiques œuvres proposées par la verrerie d'art de Soisy-sur-École. N'oubliez pas non plus les journées de l'arbre ce week-end, c'est tout le week-end aujourd'hui et demain à l'Arboretum des Bars à Nogent-sur-Vernisson. Vous avez aussi noté la fête d'automne, hein, demain au domaine de l'Île-d'On à Villemandeur, et je vous rappelle au passage, le marché du terroir, place Jean Jaurès, à Chalette, c'est toute la matinée demain. Nous étions entre Loire et Loin, merci de nous avoir écoutés, merci à Patrice Avzar, Sandrine Manteau, Anita, JB, c'était Pascal Weber au micro et à la réale. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 10h, toujours sur C2L et sur les réseaux, sur notre page Facebook Entre Loire et Loin, quand vous voulez, c'est toute la semaine, c'est 24-24. Merci de nous avoir écoutés et bonne semaine à toutes et à tous.
C2L Radio 89.3.
Go. Will they die?